Il est 19h sur France Inter. Pierre Veil, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Les premières conclusions du grand débat présenté par Édouard Philippe, il reconnaît une exaspération fiscale et veut baisser plus vite les impôts. Face à cette annonce, nous écouterons les réactions d'un groupe de Gilets jaunes à Montauban. Dans ce journal, le témoignage de Geneviève Leguet, militante des Gilets jaunes, grièvement blessée il y a 3 semaines à Nice lors d'une charge de police. Elle affirme qu'elle a été frappée à coups de matraque. La taxation des géants du numérique, la taxe GAFA, en débat à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie défend une mesure à l'honneur de la France. Les prix des alcools nettement en hausse dans les grandes surfaces, conséquence de la loi alimentation. Au procès en appel d'Abdelkader Merah, les témoignages aujourd'hui de 2 élèves présents le jour de l'attentat contre le lycée Ozar HaTorah à Toulouse en 2012. Les élections législatives en Israël. Demain, Benjamin Netanyahou brigue un 5e mandat. Les derniers sondages en direct avec Étienne Monin à Jérusalem. Au téléphone sonne, Fabienne.
Bien, ce soir, Pierre, vous êtes un grand sportif, pas vrai?
Oui.
Qu'est-ce qui fait courir les runners, les joggeurs? Qui sont ces gens qui ne peuvent aller nulle part sans prendre leurs chaussures de course? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas, nous autres pauvres mortels, les fameuses endorphines, celles qui agissent presque comme un shoot et peuvent aussi rendre accro au sport et à la course? Comment ça marche exactement? Comment peut-on aimer autant l'effort et aussi en redemander? 01 45 24 7000.
France Inter.
Le grand débat, l'heure aujourd'hui de la conclusion, de la synthèse, de la restitution avant les décisions. Édouard Philippe a fait le bilan des centaines de milliers de propositions citoyennes issues des 2 mois de grand débat national lancé face à la crise des Gilets jaunes, en attendant bien sûr des décisions concrètes d'Emmanuel Macron mi-avril. Un discours du Premier ministre à la mi-journée au Grand Palais à Paris. Il a retenu une exigence, la plus importante selon lui.
La première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. Cette exaspération, elle ne date pas d'hier. Mon gouvernement en assume sa part de responsabilité. Il en a d'ailleurs tiré un certain nombre de conséquences en annulant la hausse de la taxe carbone. Mais bien avant la hausse de cette taxe, cette exaspération avait atteint des sommets. Dans toutes les catégories de la population, dans les foyers comme dans les entreprises, les grandes, mais surtout les petites. Dès notre arrivée, nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts.
Voilà les priorités fiscales d'Édouard Philippe. Cette priorité donnée à la baisse des impôts, même si on ne sait pas pour l'instant lesquels seront concernés, cette priorité risque de provoquer des remous au sein de la majorité. Yaël Gauss, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yaël, la fiscalité, c'est un sujet qui divise au sein de La République En Marche.
Oui, ça revient de manière cyclique, comme une anomalie dans l'ADN d'En Marche, ni de gauche ni de droite. Et pourtant, sur des questions comme l'immigration ou sur la loi anti-casseurs, régulièrement on voit les lignes de fracture revenir et faire craquer le vernis du « en même temps. Avec Édouard Philippe, c'est un réquisitoire contre l'impôt. Exaspération fiscale, dit-il. Il faut que ça baisse, il faut que ça baisse vite, comme un écho amplifié de ce que répète à Bercy Gérald Darmanin, transfuge lui aussi de la droite LR. Dernier ballon d'essai en date, vous vous souvenez, la suppression de la redevance audiovisuelle. L'aile droite de la majorité est très organisée, constate un proche du président. Il y a une lutte d'influence pour peser sur la sortie du grand débat, confirme un conseiller. C'est flagrant aussi quand on observe le match sur les retraites, avec d'anciens socialistes comme Richard Ferrand ou d'ex-CFDTistes comme Philippe Grandjean, aujourd'hui à l'Élysée, qui s'opposent à un recul de l'âge légal de départ. Ce midi, Édouard Philippe est allé encore plus loin dans sa restitution très politique du grand débat, en liant la baisse d'impôts à une baisse de la dépense publique qui serait plébiscitée par les Français. Matignon doit trouver de quoi boucler le budget 2020, c'est vrai. L'Élysée laisse dire, mais d'après un proche du président, Emmanuel Macron cherche des réponses inédites qui ne soient pas seulement puisées dans le logiciel de Laurent Wauquiez.
Yaël Gauss, évidemment, les Gilets jaunes ont attentivement écouté le bilan du grand débat fait par Édouard Philippe à la mi-journée. Exemple, à Montauban, des Gilets jaunes réunis au siège de leur web radio associative. Reportage, Stéphane Iglesis.
Ils sont arrivés quelques minutes avant le discours et se sont mis autour du poste de radio.
La première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale.
Sur la justice fiscale, David Petit Commerçant a des doutes.
On parle de justice fiscale, donc c'est pas une question de baisse d'impôts, mais de faire payer tout le monde les impôts, notamment ceux qui ont des plus forts revenus, comme l'ISF. le fameux ruissellement. Donc on aimerait que ces gens-là participent au bien commun.
Édouard Philippe parle de démocratie participative.
Et ce travail devra évidemment s'effectuer avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux, avec les acteurs associatifs.
Pour Guillaume, il manque quand même l'idée essentielle des Gilets jaunes.
Par rapport au référendum d'initiative citoyen, il est en train de noyer le poisson, il écoute personne en fait. Voilà, donc c'est du vent.
Le rapport ville-campagne doit être revu, selon Édouard Philippe.
À ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur.
Et David se dit que ça sent l'ombre.
Je pense, moi qui ai organisé les grands débats, plutôt les gens voulaient rester dans leur village, étaient attachés à leur territoire et voulaient que ces territoires soient viables.
En fin de débat, David et Pascal, les deux petits commerçants, se disent que le principal n'a pas été pris en compte. David.
Retrouvons du service public, maintenons les hôpitaux dans les campagnes, réintroduisons les lignes SNCF.
Bref, les Gilets jaunes ont entendu le Premier ministre, mais ils estiment qu'il ne les a pas compris. Montauban, Stéphanie Glaizis, France Inter.
Trois semaines après la manifestation de Gilets jaunes, place Garibaldi à Nice et les affrontements avec des CRS, Geneviève Leguet, militante âgée de 73 ans, grièvement blessée lors d'une charge de police. Geneviève Leguet s'est exprimée sur France Bleu Azur, toujours hospitalisée dans une unité de convalescence à Nice. Elle dit être descendue dans la rue pour défendre le droit à manifester ce jour-là. Elle n'avait pas vu que la place était dans un périmètre interdit et elle revient sur sa blessure à la tête.
Je me souviens pas ce qui s'est passé parce que je pense que la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont donné un coup de matraque dans la tête. Et ça, il faut qu'on arrive à le prouver parce que j'ai un trou dans la tête derrière. Et je pense que ce coup de matraque m'a fait tomber. Parce que si je m'étais pris les pieds dans le plot, comme ils disent, je me serais dit merde, j'aurais fait un vol plané. Et vous êtes conscient quand vous faites un vol plané. Là, je me rappelle d'absolument rien. Rien.
Propos recueillis par Fabien Fourel de France Bleu Azur. Geneviève Leguet a également réagi à la petite phrase d'Emmanuel Macron, lui souhaitant bon rétablissement et une certaine forme de sagesse. C'est incompréhensible et surtout lamentable, dit-elle.
Il est 19h presque 8 sur France Inter. La suite du procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, l'auteur des attentats de Toulouse en 2012.
Abdelkader Merah est poursuivi notamment pour complicité d'assassinat terroriste et encourt la perpétuité. Aujourd'hui, la Cour d'assises spéciale de Paris est revenue sur les faits du 19 mars 2012. L'attentat à l'école juive Ozar HaTorah qui a fait 4 morts, un enseignant et 3 enfants de 3, 5 et 8 ans tombés sous les balles de Mohamed Merah. Corinne Audouin, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Corinne, vous êtes en direct au Palais de Justice de Paris. À la barre aujourd'hui, deux anciens élèves de ce collège-lycée sont venus raconter cette journée qu'ils ne pourront jamais oublier.
Oui, ils sont une demi-douzaine dans la salle d'anciens élèves de l'école Ozar HaTorah, serrés les uns contre les autres. Un des rares à prendre la parole s'appelle Jonathan. Le 19 mars 2012, il était à la synagogue pour la prière avant les cours. À la barre, il se souvient de tout, les coups de feu, un coup, deux coups, trois coups. Je regarde par la fenêtre, je ne comprends pas. La CPE entre en hurlant. Il y a un tireur dans l'école. Les élèves vont passer 3 heures confinés dans le réfectoire. C'était l'enfer, se souvient-il.
On se retrouve à 50 ou 60 élèves enfermés, confinés. En fait, il faut canaliser les plus petits, puisqu'à cette époque-là, moi, je suis en terminale, donc le plus grand, même si je suis encore qu'un enfant à 17 ans. Et il faut canaliser les plus petits, consoler ceux qui pleurent, calmer ceux qui sont en train de se taper la tête contre le mur. Et ça crie, ça hurle. La particularité des élèves de l'école, c'est que on connaissait les victimes, mais en plus de ça, on a assisté à leur mort.
Brian, lui, a été le premier touché par Mohamed Merah. Une balle a traversé son corps, blessé ses poumons et son estomac. Il avait 15 ans. « J'ai vécu ça comme un clivage », dit-il. « J'ai essayé d'oublier. Il lui a fallu 7 ans avant de comprendre qu'il avait besoin d'un psychologue. Aujourd'hui, ma cicatrice de 30 cm me rappelle que ça fait partie de ma vie. Au premier procès, il n'avait pas eu la force de venir. Dans le box, impassible, Abdelkader Merah a écouté toute la journée ses récits de souffrance et de résilience. » Au Palais de Justice de Paris, Corinne Audouin pour France Inter.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour faux témoignages et non-accomplissement d'obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, après le signalement du Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla. Le parquet de Paris précise que ces suspicions de faux témoignages visent Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission à la présidence de la République, Vincent Crase, le chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale, et Patrick Stroda, le directeur du cabinet du président de la République. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a donné cet après-midi le coup d'envoi des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi visant les GAFA, acronyme pour Google, Amazon, Facebook et Apple. La taxe GAFA à la française s'inspire d'un projet européen qui n'a pas abouti le mois dernier en raison des réticences de 4 pays, l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande. L'objectif du gouvernement Delphine Simon, c'est créer une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique.
Cette taxe de 3% sur les services numériques, la France est la première à la mettre en place. Une taxe temporaire en attendant une solution internationale. Alors que Washington conteste la mesure, le ministre de l'économie Bruno Le Maire se défend. Aucun État n'est ciblé. Si la France est fer de lance, c'est pour des raisons de justice fiscale.
C'est l'honneur de la France d'être en pointe sur ces sujets. C'est l'honneur de la France d'avoir soulevé cette question de la régulation de l'économie digitale. Que tous ceux qui me disent que ce combat pourrait affecter nos champions nationaux et européens, j'ai envie de leur dire, mais quels champions nationaux et européens ?
Un fer de lance bien timide pour la France insoumise. L'impact de cette taxe GAFA est faible, moins de 500 millions d'euros cette année. Seuls les services de mise en relation ou la publicité en ligne seront taxés. Une déception pour le communiste André Chassaigne.
À cette assiette minimale s'appliquera une taxe à taux unique 3%. Ce point est une véritable déception. Il montre que face à d'éventuels recours juridiques de la part des entreprises concernées, vous avez préféré, monsieur le ministre, réduire la voilure.
Pas de quoi financer les mesures pouvoir d'achat, les baisses d'impôts des classes moyennes. Mais au regard des enjeux, le capitalisme du 21e siècle, le gouvernement appelle les députés à voter le projet de loi à l'unanimité.
La taxe GAFA en débat à l'Assemblée nationale, reportage de Delphine Simon. C'est une conséquence de la loi alimentation entrée en vigueur il y a 2 mois et l'oblige les distributeurs à mieux rémunérer les agriculteurs. Mais du coup, les distributeurs gagnent moins d'argent sur les fruits et légumes ou la viande, mais ils se rattrapent sur les alcools. Manuel Ruffès, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce secteur des alcools, les prix grimpent.
Oui, c'est le principe normalement des vases communicants. La loi alimentation a obligé les distributeurs à augmenter leur seuil de revente à perte. Et les produits qui augmentent le plus, eh bien, ce sont les plus concurrencés, les plus vendus, les blockbusters, ceux sur lesquels les distributeurs se faisaient le moins de marge. Et donc, les alcools, avec des augmentations de 3, 5, voire 8%, Anne N. de chez Nielsen, le cabinet qui a fait l'étude.
Pour certains produits de spiritueux qui ont déjà des valeurs faciales à 2 chiffres, à 12, 13 ou même 15 euros, ces hausses de tarifs peuvent faire passer le prix de la bouteille à certains seuils psychologiques qui peuvent du coup frapper l'esprit du consommateur. Quand votre bouteille d'alcool ou d'anisé passe les 20 euros, forcément, vous le remarquez.
Le but, c'était bien que par une sorte de redistribution, de l'argent arrive dans les exploitations, chez les agriculteurs. Raté, estime Olivier Andreau de chez UFC Que Choisir.
L'augmentation du seuil de revente à perte qui nous a été présentée par le gouvernement comme, entre autres, un moyen d'augmenter le revenu agricole. Finalement, c'est une vaste fumisterie puisque, au final, on se rend compte qu'il n'y a tout d'abord aucune obligation pour la grande distribution de reverser cet argent qui est pris dans la poche des consommateurs aux agriculteurs. Pour nous, c'est d'abord un cadeau à la grande distribution.
L'étude Nielsen note quand même une baisse des prix sur les produits entretien, hygiène, beauté, papier et sur les marques de distributeurs et donc, au bout du compte, une hausse relativement faible du coût du panier moyen.
Manuel Ruffès. À 1 an des municipales, la campagne est déjà lancée à Lyon. Ce soir, le président des Hauts-de-France et ancien ministre Xavier Bertrand répondra à l'invitation du candidat d'hiver droite Pascal Blache pour parler d'Europe. Mais c'est bien au sein de la majorité En Marche que la bataille fait rage entre le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le président de la métropole David Kimmelfeld qui souhaite le rester en 2020 avec une droite en embuscade à Lyon. Christophe Vincent.
Il s'appréciait tellement que Gérard Collomb voyait en David Kimmelfeld son dauphin à la mairie, mais l'ex-ministre lui avait finalement confié sa création, la métropole où se décident les grands enjeux. Redevenu maire, Collomb échangerait bien les rôles, mais Kim, comme on le surnomme, ne l'entend pas ainsi. Du coup, c'est la guerre des petites phrases, des piques, l'ambiance est délétère. En charge de l'urbanisme dans les deux collectivités, Michel Le Faou est l'un des rares élus qui ose parler. Il souhaite un rapprochement d'urgence.
Je pense que les électeurs, ils aiment bien des situations claires, donc il faut faire en sorte que nous allions unis à ce scrutin. Ils ont travaillé ensemble depuis plus d'une vingtaine d'années, on a porté tous collectivement les mêmes combats, donc il serait dommageable, en tout cas à mes yeux, que l'histoire se finisse comme ça.
Cette rivalité au sein d'En Marche réveille les Républicains. Philippe Cochet, le maire de Caluire.
J'ai cru comprendre que Gérard Collomb avait dit que David Kimmelfeld n'était pas taillé pour le poste. J'ai cru comprendre que David Kimmelfeld n'était pas tout à fait d'accord avec la gouvernance de Gérard Collomb. Écoutez, qui se débrouille entre eux.
La droite rêve du scénario de 2001 inversé. À l'époque, la division des centristes et des millonistes avait profité à un certain Gérard Collomb. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
En Israël, élections législatives demain.
Oui Fabienne, 6 millions d'Israéliens aux urnes pour choisir les 120 députés du Parlement, la Knesset. Un scrutin qui est en fait un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou, indéboulonnable figure de la droite dure. Plus de 13 ans au pouvoir, il veut décrocher un cinquième mandat. Face à lui, une coalition centriste menée par le général Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée. Étienne Monin est notre correspondant permanent à Jérusalem. Étienne, bonsoir.
Bonsoir.
Quels sont les derniers arguments de campagne, une campagne électorale particulièrement dure, hein, acrimonieuse?
Oui, et toutes les cartes sont maintenant sur la table. Il y a eu encore un déplacement du Premier ministre dans le marché populaire de Jérusalem tout à l'heure et un discours de son adversaire Benny Gantz devant ses partisans à Tel Aviv. Israël est donc face à un choix de valeur. Benjamin Netanyahou incarne l'État, celui qui tutoie les grands de ce monde, mais il est aussi transgressif, clanique, capable de s'en prendre aux institutions quand elles lui demandent des comptes. Il a polarisé cette campagne. Il promet l'annexion des colonies en cas de victoire. La victoire pour lui est une question de sursis politique. Il est menacé par des poursuites judiciaires, notamment pour corruption. En face, l'ancien chef d'état-major manque de relief politique, mais il fait campagne sur l'union et la probité. Il a été durement attaqué ces dernières semaines. Il représente une alternative. Aujourd'hui, il a promis la victoire pendant que le Premier ministre a dramatisé l'enjeu pour attirer les votes de la droite sur le Likoud.
Étienne Monin, que disent les derniers sondages et saura-t-on demain soir vers 21h le nom du futur Premier ministre israélien ?
Pas sûr, ce scrutin est incertain. Les derniers sondages donnent Benny Gantz en tête, mais le camp de la droite serait le plus à même pour dégager une majorité. Deux paramètres tempèrent ces prévisions. Les indécis sont nombreux et un parti à droite menace de lâcher Netanyahou. Il y a donc à la fois un favori et du suspense.
Étienne Monin, en direct à Jérusalem. Les États-Unis ont officiellement placé les gardiens de la révolution iranienne sur leur liste des organisations terroristes étrangères. C'est un communiqué de Donald Trump qui l'annonce. C'est la première fois qu'une organisation faisant partie d'un gouvernement étranger est ainsi désignée. C'est ce que précise le président américain qui ajoute que cette mesure permettra d'accroître la pression contre l'Iran.
La grande déception, sacrée déception au musée d'art naïf et des arts singuliers de Laval.
Oui, un donateur anonyme avait offert au musée un tableau attribué au douanier Rousseau, paysage avec un pêcheur. C'était durant l'été 2017. Eh bien, c'était un faux. Le donateur avait laissé un certificat d'authenticité. Il a fallu une longue expertise pour établir que le tableau n'était pas du célèbre peintre lavallois. Enquête à Laval, Aurore Richard.
La toile date bien du 19e siècle, mais la directrice du Manas, Antoinette Le Fallaire, a levé un premier doute sur les étiquettes de galeries au revers du tableau.
J'ai fait des recherches dans les fonds de ces galeries et il se trouve que cette œuvre n'a jamais été exposée dans ces galeries.
L'œuvre a ensuite été analysée par le laboratoire des musées de France.
La signature contient du blanc de titane, blanc de titane qui n'a été commercialisé que quelques années après la mort du douanier Rousseau.
Les fines craquelures sont également fausses. Alors, est-ce que le donateur savait que le tableau était faux? On ne sait pas. L'adjoint à la culture, Didier Pilon, a une autre hypothèse.
C'est le vrai faussaire qui a déposé son tableau pour dire « on va voir si ça fonctionne ». Un faussaire a toujours besoin d'être reconnu comme un artiste.
Mais là, personne ne s'est fait avoir. Antoinette Le Fallaire a été vigilante après une mauvaise expérience, là encore avec le douanier Rousseau.
La moisson du château, exposée à Laval dans les années 70, qui a été décrochée dans les années 80, puisque, et c'est s'avéré, être faux.
Il est encore en réserve, alors le musée compte se servir de ces deux faux. Il prévoit une exposition pour l'année prochaine.
Aurore Richard à Laval. Un dernier mot à propos de sport et de justice. La Fédération française de rugby a été condamnée par le Conseil des prud'hommes de Toulouse à verser 1 million d'euros à l'ex-sélectionneur du 15 de France, Guy Neves, pour son licenciement en décembre 2017. Et vous retrouvez dans quelques secondes, tout de suite là, Fabienne Saint-Esch.
Parce que je ne suis allée nulle part, si vous voulez, je suis encore là. Donc on me retrouve, car je ne suis pas partie. Allez, merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain, Pierre.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Et Jean-Pierre Hamon, ça me laisse sans voix cette pub à chaque fois. Une séquence de temps instable au moins jusqu'à mercredi.
Effectivement Fabienne, en cause la présence en altitude d'une vaste goutte froide venant déstabiliser la masse d'air demain après-midi et mercredi. En attendant, votre matinée sera souvent nuageuse avec des bancs de brouillard dans l'ouest et le sud-ouest, de faibles pluies plus près des frontières du nord et puis prévoyez quand même du soleil à l'est du Rhône. L'après-midi, on retrouvera de la pluie sous un ciel bâché près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes et partout ailleurs, l'instabilité va se mettre en place petit à petit, apportant de fréquentes averses. Les orages seront aussi de la partie. En l'absence de flux, les cumuls de pluie seront localement importants. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Fabienne, comptez sur un temps plus calme avec de belles éclaircies de la Bretagne à la Vendée et de la Charente-Maritime à la Gironde.